Puisqu'on parle du montage de deux plans et d'une des possibilités, d'une façon de pouvoir voir le monde, il y a très directement dans le CD-ROM un petit jeu comme ça qui propose de superposer un son avec une image. Alors là, je ne sais plus dans quelle partie c'était, mais en tout cas, tous les sons apparemment sont superposables aux images et ça produit un sens très différent à chaque fois, bien sûr.
Ouais, c'est un petit jeu très rigolo, quelquefois tragique, mais pour montrer qu'en effet, avec chaque image, avec n'importe quelle image, fonctionne n'importe quel son, mais c'est le sens qui change. Et donc, on ne peut pas mettre n'importe quelle musique, contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire avec n'importe quelle image, sans en subir les graves conséquences. Là, ouais, fabriquer du sens, c'est aussi ce qui nous intéresse, dans le multimédia comme dans la musique. Fabriquer du sens, c'est pas simplement de la virtuosité, des choses plastiques, ça nous intéresse absolument pas. Je crois qu'on n'est pas du tout... Il y en a qui font ça très bien, hein. Mais en tout cas, nous, c'est pas notre truc.
Est-ce qu'il y a quelque part un petit souci pédagogique aussi pour ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, etc.
Ouais, mais la pédagogie, c'est d'abord tourner vers nous-mêmes. On a l'habitude de faire des pièces, de faire des morceaux de musique avec des choses qu'on maîtrise mal. C'est une manière de fourbir nos armes, d'apprendre nous-mêmes des choses. Il y a de la pédagogie dans tout ce qu'on fait, mais d'abord tourner vers nous-mêmes, apprendre quelque chose. On se dit, oh là, le timbre, c'est quelque chose qu'on maîtrise mal, on devrait faire des progrès là-dessus. Bon, alors, faisons un morceau où on va vraiment travailler sur la problématique du timbre dans un morceau. Je crois que la pédagogie, d'abord, c'est comme ça qu'on l'aborde. Alors évidemment, si nous, on apprend quelque chose, on peut espérer que d'autres vont apprendre aussi quelque chose. De toute façon, apprendre, pour moi, c'est la chose la plus importante, peut-être, dans une journée. C'est-à-dire que je ne m'endors pas sans avoir appris quelque chose dans la journée. Me dire, bon, au moins, j'ai pas perdu mon temps encore aujourd'hui, j'ai appris ça. J'aime bien les phrases de Cocteau, il dit « Le matin, ne pas se raser les antennes. Vous n'avez pas de barbe, vous avez moins de risques. » Mais les hommes, on a beaucoup de risques.
Puisqu'on est dans le sens, on peut aller un petit peu plus loin du côté de Dorothy, par exemple.
Dorothy, on est très fiers d'avoir participé à la compilation du label Natto. C'est Jean Rochard qui nous a demandé de faire ça. Il nous a proposé de faire une pièce et on a écrit « Vivan las Utopias ». Au lieu de faire quelque chose de nostalgique, de se rappeler de la guerre d'Espagne, puisque Bonaventura Durruti était cet anarchiste qui s'est fait tuer en 1936 à Madrid, on s'est dit « on va faire une pièce qui parle de toujours et de demain, quelque chose d'assez dur en même temps, parce que le fait de le faire chanter par une petite fille... C'est assez grave. C'est pas du tout une chanson pour enfants. On a joué le jeu. On a fait un morceau anarchiste. Ouais, je crois.
Ça faisait partie de votre histoire, déjà ?
À 15 ans, peut-être. J'ai une fille qui a 11 ans et demi et qui est anarchiste. Alors ça a fait rigoler, évidemment, ça m'a fait rigoler et elle m'a regardé avec un regard de mépris quand je lui ai demandé ce que ça veut dire anarchiste et elle m'a regardé en me disant simplement « ni Dieu ni maître ». Genre, mon vieux, tu comprends vraiment rien. Alors, évidemment, l'anarchie, il y a quelque chose d'anarchiste, ça plaît à tout le monde en même temps parce qu'il y a un peu d'anarchie en chacun de nous de toute façon. En tant que... théorie politique, c'est sujet à caution comme toutes les théories politiques. Il faut faire avec, mais en tout cas, ça pose des questions réelles qui n'ont pas perdu de sens aujourd'hui, étant donné l'échec de tout ce qu'on a essayé jusqu'ici, puisque le communisme, c'est une idée absolument formidable, mais dans la pratique, ça a mal suivi. Il y a eu des débordements, les abus de pouvoir, etc. Je ne parle pas du capitalisme ou du libéralisme. Là, évidemment, c'est à chier absolument. C'est ce qu'il y a de pire. C'est en train de bousiller la planète, l'humanité et l'ensemble des autres espèces qui n'ont rien demandé. Donc ça, c'est le gâchis absolu. J'aimerais bien continuer à pouvoir être communiste, marxiste du moins. Et l'anarchie, c'est un petit bout de ça. Moi, je le vois comme ça. Hein. Ça a une façon un peu... évidemment d'artiste de parler des choses. C'est l'index 5 dans le disque magnifique Bonaventura Durruti. Ça s'appelle Vivan las Utopias et c'est ma petite fille Elsa qui chante cette chanson, et elle est accompagnée par Michel Godard au tuba, par François Corneloup au baryton, par Hervé Leger à la guitare, par Bernard Vittet à la trompette, par Xavier De Sandre aux percussions. Je veux dire qu'on est obligé de dire le nom des gens là, dans ces cas-là. Et puis dans les chœurs, il y a encore d'autres gens. Et puis c'est bien, bon, on n'a qu'à l'écouter. Vivan las utopias.
La belle au bois, mon vin, attendre le réveil, car la lune revient du pays du sommeil. Ni son roi, ni ses frères, partis. We'll be right back.
de Dise, Vivan las Utopias. C'est Jean-Jacques Burger qui est avec nous et Bernard Vité pour le drame musical instantané, extrait du double album Buenaventura Durruti sur le label Natto.
Et c'est distribué par Harmonia Mundi, comme nos disques comme carton, comme les disques in situ, parce qu'on a un disque chez eux aussi, qui est aussi distribué par Harmonia Mundi. Je suis très content. C'est aussi eux qui distribuent Zappa.
Mais d'ailleurs, tout d'un coup, puisqu'on parle d'in situ, le titre, c'est bien Une jeune fille tombe-tombe.
Jeune fille qui tombe-tombe, ouais. oui, c'est peut-être la même. Elle met un temps à tomber aussi, celle-là.
Pourquoi faire tomber des filles comme ça, tout le temps,
ouais, écoutez...
inlassablement.
c'est normal pour un garçon d'avoir envie de faire tomber une fille.
Ben, j'aimerais bien comprendre.
La séduction, l'envie de séduire, non, je sais pas.
Non, ça,
tomber des filles, mais... tomber les filles, oui, non, qu'est-ce que ça veut dire?
Vu comme ça, d'accord.
Je sais pas.
Mais là, la pauvre, elle tombe vraiment de très haut.
Ça, c'est le problème, elle a mal choisi peut-être le garçon avec qui qu'elle a rencontré. Ça arrive très souvent, hélas. Mais il y a aussi des garçons qui tombent. Mais nous, on les voit moins tomber, on a moins de recul. Il faut faire attention en même temps en reculant. Ça dépend où on est. Je vois très bien. Oui, vous m'avez indiqué le balcon. Je fais attention.
Quel était le parti pris musical de ce morceau? Enfin, on entend.
Ah, un air
sûr,
de fête, mais... évidemment. Côté Carnaval de Rio. On voulait surtout aucune nostalgie, rien de tout ça. Que ce soit que l'anarchie soit une fête, que ces mots d'ordre soient une fête, que. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui si ce n'est à fabriquer des nouvelles utopies? Si on ne fonce pas dans une sorte d'amertume, d'aigreur, de cynisme, on n'a qu'une seule solution. On n'a pas d'autre alternative que d'inventer des nouvelles utopies. C'est ça qu'on essaie de raconter. Le monde a beau être horrible, il faut quand même le changer. 80% de la planète est condamnée. Et alors? On doit quand même faire tout ce qu'on peut pour que ça aille un peu moins mal, donc beaucoup mieux. C'est ça, Vivan las Utopias, c'est un beau slogan. Il faut continuer, il faut refuser quand on nous dit « mais c'est pas possible, on peut pas le faire, c'est un système qui marchera jamais ». Et alors, ça n'a jamais marché, rien ne prouve qu'on le fera, qu'on n'y arrivera jamais. Il faut continuer à rêver, c'est ça que ça dit. Et ça dit aussi que les rêves, il faut les prendre aussi pour des réalités. Il y a un vieux fond 68 art hein, dans tout ça. Ouais, on le nie pas.
Donc vous avez écrit les paroles?
Oui.
De cette chanson. Ça laisse pas beaucoup d'espoir à la fin. Je ne veux rien posséder, même ma liberté.
Non, ça c'est le fantôme de la liberté dont il est question. C'est-à-dire que rien posséder, oui, je ne veux rien posséder. Pourquoi
ça, c'est l'anarchisme.
Quand vous dites ça laisse pas d'espoir, non, ça veut dire que l'idée de la liberté, c'est quelque chose que, sans arrêt, on entend souvent le mot liberté, Bernard Vitesse s'énerve toujours là-dessus. Et moi je pense au film de Buñuel, Le fantôme de la liberté. Je pense que la liberté n'est qu'un fantôme, il n'y a aucune liberté. Ça, c'est pas une utopie intéressante. C'est un fantôme qu'on nous brandit pour nous museler, la liberté. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de liberté.
Alors, qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qu'on peut chercher à faire exister?
Qu'est-ce qu'on peut chercher? Ben, on pourrait chercher à être heureux et à rendre heureux les gens qui nous entourent, tout simplement, pour qu'au moment où on disparaît, eh ben, on se dise « bon, j'ai servi un petit peu à quelque chose, j'ai passé du bon temps, et puis j'ai réussi à ce que ce temps soit agréable pour ceux qui m'entourent, ce serait déjà pas mal, une sorte de militance de proximité, je crois qu'on a besoin de ça aussi. Quand j'étais à Sarajevo, il y avait un proverbe qui disait que quand Dieu te recevra, il te demandera ce qu'il en était de ton voisin et de ton chat. Je trouve ça magnifique. Je suis totalement incroyant, anticlérical. C'est pas le problème de Dieu là, dans ce cas-là, c'est le problème du voisin et du chat. Je crois que si on se comporte bien avec son chat et avec son voisin, on a réussi sa vie. Bon, voilà, ça c'est une utopie. C'est pas toujours facile hein, d'avoir des bons rapports de voisinage. Avec les chats, eux savent le faire, mais les voisins, c'est pas facile.
On peut parler maintenant peut-être un petit peu d'un mouvement qui regroupe beaucoup de musiciens qui viennent de d'horizons très divers, justement, ça fait aussi partie de son intérêt. C'est pas fermé, c'est pas une chapelle. Et ça semble, c'est toujours nécessaire, mais en même temps, en ce moment, il y a beaucoup de sujets de réflexion au sein du collectif musique.
Ouais, c'est formidable, oui, que des gens se groupent et se disent on peut peut-être changer quelque chose. Ouais, il est peut-être pas trop tard. Je dis bien, il est peut-être pas trop tard. Ouais, il faudrait qu'un maximum de musiciens rejoignent ce collectif pour lui donner de la force. C'est, il y a pas mal de pays comme ça. Je dis de pays parce qu'il y a des endroits où ça va beaucoup plus mal que chez nous. Quand tout ce qui est politique est complètement coincé, verrouillé, et on se dit que les artistes sont des gens qui ont encore possibilité de l'ouvrir et de dire des choses. On vient de le voir avec les lois d'Aubré, avec quelques cinéastes tout d'un coup qui se groupent et qui lancent un mouvement. Je crois qu'on ne peut pas mettre en doute la sincérité d'un artiste, quel qu'il soit, même fût-il le plus opportuniste. Y a quelque chose de lutte contre la mort là-dedans, de vie, d'instinct de vie terrible. Je crois que il faut se prendre en main, il ne faut pas attendre que d'autres fassent le travail pour nous. Ça n'empêche que je ne suis pas en train de mettre sur de clouer au pilori les politiques. Mais peut-être faut-il réformer le système politique, que ce ne soit plus un métier, que la démocratie ne soit pas un vain mot, mais que ce soit vraiment quelque chose de réel, qu'on ne soit pas rééligible. Des choses comme ça. C'est des utopies, hein, je vous donne des... On parlait d'utopie, donc voilà, ça c'est très important. Si ceux qui nous dirigent étaient à la première personne du pluriel, et non avec cette troisième personne, cette petite classe irrecyclable, parce que c'est ça le problème aussi. Quand on a été un politique, qu'est-ce qu'on fait après ? Évidemment, il y en a qui s'essayent au théâtre, au cinéma, mais...
Ou à la musique.
Ah bon ? mais je crois que c'est important. C'est important en tout cas puisqu'on est là à la radio, à TSF, de dire rejoignez, si vous êtes musicien, rejoignez le collectif musique, relisez bien le texte. C'est un travail absolument magnifique. Je crois que magnifique et surtout drôlement bien fait, sérieux, étayé, et que en 30 ans de ministère de la culture, il n'y a pas un type qui a été capable de produire un texte aussi clair, aussi juste sur le statut de l'art, des artistes, des intermittents du spectacle et de la musique en particulier. Maintenant, ça ne pourra exister que dans une lutte interprofessionnelle, pluridisciplinaire, ou je ne sais pas. Il ne faut pas non plus que ça reste corporatiste. Ça doit rester, c'est bien de se réunir entre nous, de comprendre que l'ennemi, c'est pas à l'intérieur là qu'il est, mais parmi les musiciens, mais que c'est des systèmes stupides. C'est beaucoup de stupidité souvent qui régit le monde. Il y a aussi des sales cons, aussi. Mais il y a beaucoup de pauvres cons.
Nuance.
Ah ben c'est une nuance absolument fondamentale. Hein.
Il y a toujours eu de toute façon des systèmes qui se mettent en place pour résister, réfléchir, contrer. Ça a toujours existé.
Oui.
En dehors et dans la musique, de toute façon.
Bah, la résistance. Vous savez, un drame musical instantané, pour le terme qu'on employait, c'était résistance active, tout le temps, résistance active. On est des résistants, on est un îlot de résistance. Et puis en ce moment, c'est formidable, il y a plein d'îlots de résistance qui naissent un peu partout. Et on se dit peut-être qu'il y a justement une petite chance là, il y a une utopie d'enrayer ça, parce que sinon c'est la chute de la civilisation occidentale assurée et hélas méritée. Quand les hommes ont faim, quand les gens ont faim, les révolutions arrivent. Il y a beaucoup de gens, beaucoup trop de gens qui ont faim. Je parle pas ici on est des nantis, mais ailleurs c'est de ça qu'on essaye de parler souvent dans nos chansons, hein. Très souvent, on a eu envie de faire des chansons parce que la musique, ça suffisait pas, c'était pas assez précis. Puis on n'avait pas envie d'écrire des livres, il y en avait d'autres qui savaient le faire. Donc on a fait ça comme ça.
Et du coup, effectivement, on en revient à l'idée dont on parlait un tout petit peu tout à l'heure, qui est maintenant de la mettre à la portée un petit peu plus de monde, un plus grand public, et de sortir des bacs strictement de jazz, mais d'aller aussi vers les bacs variétés, vers la chanson en tout cas.
Ouais, c'est encore ambigu parce que y a à la fois un souci de gagner sa vie et puis de toucher plus de monde pour remuer pour remuer les esprits, pour sortir du carcan de l'information télévisuelle. Ça fait beaucoup de mal, la télévision. Ça pourrait être un instrument absolument extraordinaire, un instrument de pédagogie, puis c'est un instrument d'abrutissement. C'est quand même grave, on arrive à retourner les objets comme ça, les outils. Et alors, ben, on essaie. Il faut bien qu'il y ait des foyers de résistance, des gens qui parlent autrement, des gens qui montrent autre chose, des radios qui soient faites autrement, où on prenne le temps de parler, comme ce soir. Il faut trouver le moyen, chacun à son niveau, plombier, ouvrier, médecin, musicien, de résister, voisin. Même chose, ça me rappelle à Sarajevo, ils étaient écroulés parce qu'il y avait un type en Allemagne qui avait sauté de sa fenêtre parce que son poste de télé est tombé en panne au moment du match de foot. Et il s'est tué de rage, de désespoir. Et ça les faisait hurler de rire parce qu'ils disaient, mais ici, il serait venu sonner chez moi, il serait venu voir la fin du match ici. Je trouve ça tellement...
dérisoire.
Ah ouais.
C'était dans quelles conditions, Sarajevo ? Pourquoi est-ce que vous étiez sur place ? Est-ce qu'il y avait un lien direct avec le disque, ce qui a donné lieu au disque
Sarajevo Suite ? Oui, Sarajevo Suite, c'est un travail qu'on a mené avec plusieurs personnes, dont Corinne Léonet. En fait, j'étais le directeur musical de Sarajevo Suite. Mais Sarajevo Suite, c'est venu après Le Sniper, un petit film qui est beaucoup passé... un petit film de 2 minutes qui est beaucoup passé sur les chaînes, dans les salles, etc. Et c'est venu aussi après le fait qu'on m'ait fait un sacré cadeau empoisonné de m'envoyer à Sarajevo tourner une série de films qui s'appelait En France, chaque jour pour Sarajevo. Un petit film de 2 minutes comme ça sur la vie d'une rue. C'était pas du news, c'était pas de l'information, c'était la vie d'une rue, comment les gens vivent. C'était des petits courts-métrages, des petits films finis. On est 9 réalisateurs comme ça à avoir travaillé. Et bon, moi, j'ai particulièrement eu de la chance, puisque 1000 obus par 24 heures, ça transforme un homme. Je dis j'ai eu de la chance que je suis revenu vivant. J'aurais pu avoir un arrêt du cœur en petit français ringard que j'étais, parce que je suis resté 3 semaines, alors qu'eux se sont tapés ça plus de 3 ans. Et j'étais obligé d'être très digne. Mais ça a été une expérience absolument extraordinaire parce que j'ai connu un moment l'humanité un peu différemment de ce qu'elle est d'habitude. C'est-à-dire des gens intelligents, sensibles, philosophes, ne parlant jamais politique mais parlant philosophie toute la journée, cultivés, inventifs, avec un souci d'expression individuelle et collective, une solidarité absolument formidable. Ça, c'était central. Et puis, autour, des brutes épaisses, des gens qui s'amusaient au tir forain sur des gens qui, avec des fusils anti-aériens, sur des gens qui étaient pas armés. C'était pas une guerre. Alors, il y avait comme ça ce contraste entre l'horreur absolue de l'humanité. Et puis, ce qu'elle a de plus beau, ça a beaucoup changé. Sarajevo n'est plus comme ça, évidemment. C'est des situations critiques qui mènent à ça. Moi, j'en parle souvent parce qu'évidemment, c'est une chose qui m'a énormément marqué. C'est le deuxième événement qui m'a le plus marqué après mai 68, où j'avais 15 ans. J'en avais 40 à Sarajevo. Et beaucoup des valeurs que j'avais jusqu'ici ont été remises en question. Pas par la peur, personne n'a peur, on n'a pas le temps, on est tendu, j'ai mis un an pour m'en remettre, mais par cette humanité extraordinaire, tout d'un coup, qui est obligée de s'exprimer, où il n'y a pas de jalousie possible, pas de... Tout le monde, s'il y avait 30 personnes dans une pièce, il y avait 29 personnes pour s'occuper de la 30e et réciproquement. Ça, quand on revient, c'est difficile, après, de supporter les petites tracasseries du quotidien, et on se dit qu'on... Peut-être que... C'est pas comme ça qu'il faut vivre. Donc j'ai souvent pensé à des petites phrases comme ça qu'on m'a dites, parce qu'ils avaient en plus énormément d'humour. Les femmes étaient très belles, les hommes étaient très beaux. Ah, c'est une drôle d'histoire. Hein. Puis maintenant, bon, bah, c'est probablement ailleurs sur la planète, il y a un endroit où ils sont bien obligés d'être de nouveau humains.
Pas très optimiste non plus, là encore.
Pas l'optimisme, faut pas exagérer quand même. On peut se battre,
encore.
Ouais, non, il faut pas exagérer. Je veux dire, on peut pas être aveugle. On est en train de tout détruire. On est en train de détruire la planète au niveau de ses ressources naturelles. On est en train de détruire des populations entières. On nous parle de génocides qui se sont passés dans l'histoire en occultant certains qui sont extrêmement graves. Et en ce moment, on n'arrête pas. L'Afrique, c'est un immonde génocide. On ferme les yeux sur ce qui est en train de se faire. On est en train de boucler. C'est une chose affreuse. Et tout le monde est complice. Et un jour, on parlera de ça. Et quel rôle on nous donnera, comment on nous regardera, qu'on a laissé comme ça un continent entier sombrer. C'est invraisemblable.
Mais c'est même sur la nature humaine, puisque l'humanité ressort au moment où il y a vraiment une tension et un encerclement comme ça. Ça veut dire que sinon... Sinon quoi? Sinon on n'y pense plus, on fait autre chose?
Alors, ça change pas grand chose, vous savez, en plus l'humanitaire... On est bien obligé hein, d'avoir des réactions humanitaires, mais en plus ça n'y change pas grand chose. Parce que c'est pas des pays, on sait bien que l'économie n'est plus entre les mains des gouvernements, elle est entre les mains d'instances supérieures, que sont les économistes. On se fabrique une banque européenne pour pouvoir avoir la nôtre en face. Mais on a décidé, tout ça est totalement cyniquement programmé, c'est la loi du profit à court terme. On a affaire à des gens très bêtes. Il faut ça pour qu'un empire décline. C'est affreux, mais c'est peut-être moi, bon, c'est peut-être pour ça qu'on aime participer à des choses comme bah oui, essayer d'avoir au moins d'amener un petit quelque chose avec Sarajevo Suite. On peut peut-être écouter d'ailleurs la. Je crois que c'est l'index 9 dans Sarajevo Suite.
On a Sarajevo Suite.
Ouais. Je crois que c'est l'index... Non, c'est l'index 5. On va voir si c'est ça. C'est une chanson qu'on a écrite pour Didi Bridgewater sur un texte d'Abdullah Sidran, poète de Sarajevo. C'est très très beau. Le texte est absolument magnifique. Puis on a demandé à Didi Bridgewater de le chanter en français. C'est le Quatuor Balanescu qui l'accompagne.
Seigneur, je t'en supplie, Dieu de magnificence, chasse ces bêtes de la face du monde. Laisse-moi les petits chers. Laisse-moi ma misère. Ne fais aucun mal aux oiseaux, mais je t'en supplie, Dieu de miséricorde, chasse ces bêtes, chasse ces bêtes qui sont sur les collines, chasse-les, chasse. Ne touche pas à la fourmi, ne t'acharne pas sur les bestiaux, mais ces bêtes-là, chasse-les. Chasse-les de l'endroit où tu les as placés. chasselet de la face du monde où tu les as mises. Chasselet, mon Dieu, et viens leur en aide. Mon Dieu, nul autre que toi ne peut les secourir. Il ne saurait avoir la place en ce bas monde, pas plus que dans l'au-delà. Chasse-les, mon Dieu, et de l'autre, chasse-les. Et accorde-nous ta grâce.
C'est donc extrait du Sarajevo Suite, c'était Didier Bridgewater.
Ouais, c'est sur l'empreinte digitale, toujours distribué par Harmonia Mundi, et c'est au profit de la reconstruction de la bibliothèque de Sarajevo, qui en aura bien besoin.
Qui a été reconstruite ?
Non. Pour le moment, on a gelé l'argent en attendant d'être sûr de le donner en bonne main.
Mm-hmm. Le projet musical sur ce disque, en quelques mots, c'était quoi ?
Bah, c'était de faire quelque chose pour Sarajevo, et puis c'était de trouver l'âme justement de ce qui avait fait, de ce qui faisait à l'époque cette résistance à la stupidité, à l'horreur. Et on l'a fait autour des poèmes d'Abdullah Sidran, parce que c'était un élément fédérateur, demander à des créateurs de faire des pièces originales, et puis quelque chose de leur contribution pour Sarajevo. Donc il y a des tas de gens comme Texier, Sclavis, les Westbrook, Lindsay Cooper, Pierre Charial, Dussolier, Birkin, etc., qui ont participé à ce disque. J'oublie plein de gens, mais Brucker, et c'est un très beau disque. Pour moi, c'est vraiment une très belle expérience aussi d'avoir pu mener ça à bien.
Comme il va être temps de se quitter dans pas longtemps, on a finalement décidé quelque chose, choisi un morceau pour terminer, et je trouve ça pas mal par rapport au titre, mais peut-être ça n'a rien à voir avec ce que je vais dire, puisque c'est Radio Silence.
Oui.
Qu'on est à la radio et qu'on n'arrête pas de parler, alors.
Puis c'est un morceau où il n'y a pas beaucoup de silence, hein, dans Radio Silence. Mais enfin, oui, c'est une amie qui est philosophe, qui me disait ce serait bien qu'il y ait une chaîne qui s'appelle Radio Silence et où il n'y ait rien, où il n'y ait que du silence. J'avais trouvé ça marrant, je lui ai piqué le titre. Et puis j'ai essayé d'écrire quelque chose, ouais, une chanson simple. Encore une fois, on essaye toujours de faire simple et c'est pas facile. Vous savez, faire des chansons de variété pour des gens qui viennent d'où on vient, c'est pas simple du tout. On a tendance toujours à compliquer beaucoup, à vouloir trouver des idées originales. C'est pas facile. On pense que la chanson, c'est quelque chose de facile. Essayez, hein. C'est drôlement dur d'aller comme ça directement. Faut que ça passe, on peut. Peu de choses. Je pense qu'on y arrivera encore mieux sur le prochain.
Qui est en préparation.
Moi, il y a des choses en préparation. En fait, avec Bernard Vité, on écrit un album entier pour ma fille. Voilà. C'est pas du tout le genre de choses qu'elle aime écouter, mais ça peut être le genre de truc qu'elle aime chanter.
Puisqu'elle s'y prête.
Elle s'y prête à condition que ça lui prenne pas trop de temps. Ça nous fait, j'ai l'impression, plus plaisir à nous qu'à elle, mais enfin, c'est une bonne fille. Elle aime bien nous faire plaisir. Et puis sinon, on prépare une suite de nouvelles chansons. Tes abysses sont des abîmes. Ce sera une chanson d'amour. C'est dur. Et puis on travaille sur l'arrobas des chiapas. Voilà. Là-dessus qu'on travaillera sur, en plus avec un univers multimédia encore beaucoup plus poussé encore que sur carton, qui est déjà
très avancé.
Ouais, qui est déjà très avancé, mais enfin il y a des nouveaux, tout le temps il y a des nouveaux outils, on a envie de faire des nouvelles choses. C'est un univers très ludique où les gens qui font ces objets interactifs sont très excités et tous les jours découvrent quelque chose. On est dans un état de fébrilité absolument merveilleux qui rappelle une certaine adolescence quel que soit, je ne parle pas d'une époque, hein, sans nostalgie pour une époque, mais quelque chose comme ça où on a l'impression de découvrir tous les jours quelque chose. On s'envoie des courriers électroniques en disant « Regarde, j'ai trouvé ça, etc. » Sur le net, ça c'est très excitant de travailler avec des gens enthousiastes. C'est très très agréable et alors on travaille là-dessus. Et puis sinon, bah, on fait la promo de carton, parce qu'on le fait nous-mêmes. Et... on se débrouille pas trop mal pour des gens qui font ça tout seuls, mais il faut dire que c'est un travail d'artisanat.
Du début à la fin.
Ah ouais, du début à la fin. On a toujours fait ça. C'est une chose que j'ai apprise très tôt. Il fallait être capable de contrôler les moyens de production. Vous savez, on a notre propre studio, notre propre label. On a nos instruments. On est complètement indépendant et ça nous permet de travailler pendant les périodes où on n'a pas de commandes. Bah, ça nous permet de faire ce qu'on veut. Et quand on a peu de commandes, ben on est très productif.
Alors ça, bravo.
Mais ça nous coûte plus cher que ça ne nous rapporte, évidemment. Mais quelle importance si on s'amuse et que la vie est belle.
Alors du coup, on va maintenant s'éloigner des villes et on va aller tranquillement.
Ça a été écrit sur une île de l'archipel de Stockholm. Mmh. Ça explique. Il n'y avait pas d'électricité. Mmh. Ça explique peut-être un peu.
C'est une autre utopie, le silence ?
Ben, loin de la civilisation et au milieu de la nature, quand il y a encore des serpents qui passent autour de nous et des élans ou des rennes, ah, ça, c'est pas mal. Hein.
Radio Silence, c'est Jean-Jacques Birger, Bernard Invité.
Come on.
toi mon amour, dans cette maison vide, je sens ton souffle amer.
Sur un radio silence, très silencieux. Merci beaucoup Jean-Jacques Birger d'être venu.
Merci
nous
Agnès
Risnos. Alors, musicalement la musique et puis oralement la partie visuelle du CD-ROM qui s'appelle Carton. C'est sur le label GRO, donc le vôtre, et distribué par Harmonia Mundi pour la partie musicale en tout cas.
Merci de m'avoir invité. À bientôt.
On a appris plein de choses aujourd'hui. C'est formidable.
Ouais, je suis content.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.